Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de bonne humeur informative pour vous, d'un tournoi impitoyable pour eux. Chaque après-midi, et aujourd'hui plus que jamais, les journalistes d'Europe 1 s'affrontent dans une féroce compétition. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui vous offrira l'info la plus étonnante, l'histoire la plus palpitante? Ils sont remontés à bloc. Vous pouvez me faire confiance, la causerie d'avant-match a été musclée.
Ton bêtard va suffire un peu, d'accord, on va mettre un peu de rythme. Ah c'est marrant, je vais y aller, c'est pas marrant, quand t'as mis sur les touches, je vais y aller le premier, et ça va redémarrer.
J'ai pas compris moi-même ce que j'ai dit, mais je leur ai dit. Mon entraîneur adjoint est à mes côtés, Eva Roque, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Eva, je le disais, aujourd'hui la compétition va être encore plus acharnée que d'habitude, car nous recevons un grand compétiteur dans l'âme, un animateur baroudeur qui ne tient pas en place. Je n'ai même pas besoin de vous donner son nom, une musique vous suffira à le reconnaître. Kéké, y'a kéké. On ne saura jamais ce que ça veut dire. On ne saura pas. Mais oui, Denis Brognard, le présentateur iconique de Koh-Lanta, notre invité cet après-midi. Bonjour Denis.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva.
Bonjour Denis.
Alors, ce n'est pas la nouvelle saison de Koh-Lanta que vous venez nous présenter aujourd'hui, mais la Coupe du Monde de rugby qui démarre vendredi prochain au Japon. L'équipe de France joue samedi contre l'Argentine. C'est sur TF1. Tous les matchs seront d'ailleurs disponibles sur TF1, TMC ou MyTF1. Et vous, vous présentez le bac de la Coupe du Monde, c'est ça Denis?
Exactement. Entre les matchs et puis avec un décryptage très précis, comme on le faisait sur le foot avec les hommes et les femmes, de ce qui se passera autour de l'équipe de France, on espère le plus longtemps possible.
Et vous y connaissez bien en rugby ou vous êtes entouré de spécialistes?
Je suis entouré de spécialistes, c'est un peu la force de ce mag. Voilà. Mais j'aime le rugby moins que l'un de vos chroniqueurs du jour, mais
on voilà. Y vient.
C'est quand même un sport que je suis très régulièrement.
Alors on va en parler, mais d'abord laissez-moi vous expliquer comment ça va se passer. Ici c'est comme Koh-Lanta, l'exotisme en moins, la bouffe en plus. À votre gauche, première équipe en lice aujourd'hui, l'équipe des jaunes. Baptisée ainsi non pas par rapport à leur totem, mais à leur passion commune pour le chablis. Trapu et musclé comme un première ligne qui aurait arrêté le rugby depuis une dizaine d'années et qui se serait reconverti dans l'import export de Patanegra, Jérôme Lacroix, notre expert sport. Bonjour Gégé.
Bonjour Mathieu, bonjour Denis, bonjour Eva.
Jérôme,
bonjour
vous êtes... moi si vous me présentez comme ça, je m'en vais tout de suite. Je vous préviens tout de suite, Jérôme, il est sympa
mais
de rester.
Vous, vous êtes fin comme un roseau.
Ouais.
Jérôme, vous êtes actuellement deuxième du classement général.
Mais, non.
Ce qui est... mais oui, il ne le sait pas. Avec quel sujet comptez-vous surfer sur la vague du succès?
C'est l'histoire du combat d'une vie, une femme qui se bat contre les institutions. On va parler d'athlétisme.
On va parler même de Caster Sénégal,
exactement,
je crois. À ses côtés, Denis Brognard, je vous présente un journaliste à côté duquel Christophe Ondelat est un enfant de cœur. Il est le chef du service police-justice d'Europe 1 et en matière de faits divers, il a le cuir encore plus tanné que celui de Ondelat. Et pourtant, Ondelat en a vu des horreurs.
À aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo soit votre mère.
Bonjour Alain Macron.
Bonjour.
Précision importante, Denis Brognard, je sais que vous connaissez Alain parce que vous avez été journaliste sportif ensemble sur Europe 1. Pas de collusion, pas de favoritisme, hein, attention.
Non, aucun favoritisme, mais c'était il y a près de 30 ans, mais il n'a pas bougé. Hein. Il n'a pas changé.
Pas bougé de siège.
Alors Alain, avec quelle histoire allez-vous nous surprendre aujourd'hui?
Moi aussi, c'est le combat d'une femme. Mais alors, c'est une femme qui est en pétard contre le feu d'artifice qui est tiré depuis le cimetière où sont enterrés ses parents. Voilà.
Ah oui, effectivement. Un fait divers, mais quand même rieur.
Rieur, mais elle est en colère.
Ah oui, rieur pour nous, moins pour elle. Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Denis Brognard est avec nous. Et pour tous les fans du ballon ovale, c'est vers le Japon que les regards se tournent. Ah, fascinant Japon. Ou dans quelques jours, c'est une autre musique qui va retentir. La Coupe du Monde de rugby en intégralité sur TF1 avec notamment le mag de la Coupe du Monde du 20 septembre au 2 novembre. Attaquons d'emblée par la question qui fâche, Denis Brognard. Quelles sont, en toute honnêteté, les chances de la France? Clint Eastwood disait...
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.
J'ai l'impression qu'on n'a pas des masses de munitions, Denis, pour cette Coupe du Monde.
Ah non, mais c'est vrai que si on regarde les derniers résultats, si on regarde les dernières prestations de l'équipe de France, on y va un peu pessimiste. Mais moi, je suis un optimiste éternel et surtout un chauvin. Donc, je préfère.
C'est ça qui peut nous sauver.
Voilà, exactement. Non, je préfère penser à la préparation de cette équipe de France. Sur les matchs du tournoi Destination, ils arrivent tous de leur club, ils s'entraînent à peine 2 jours. Et ils disputent les matchs avec le maillot bleu. Là, ils se sont entraînés pendant plusieurs semaines. Je pense qu'il y a une vraie cohésion. Je pense qu'il y a l'apport de Fabien Galthié comme entraîneur adjoint auprès de Jacques Brunel. Voilà, on part pas favori et tout va se jouer sur le premier match. C'est ça qui est terrible puisqu'on joue l'Argentine samedi et on est dans le pire des groupes puisqu'il y a deux équipes qui se qualifient pour les quarts de finale et que dans notre groupe, il y a trois grosses équipes. D'habitude, en rugby, il y a tellement de disparités entre les meilleurs et les autres que dans chaque groupe, on s'arrange pour qu'il y ait deux bonnes équipes qui se qualifient quasiment à chaque fois. Là, nous, on a trois équipes très très fortes. Il y a l'Angleterre qui fait partie des nations favorites. Il y a l'Argentine qui nous a jamais vraiment réussi en Coupe du Monde. Et puis, il y a nous. Donc, si on bat l'Argentine, ensuite, certes, il y a les États-Unis et les Tonga, mais je pense que si on bat l'Argentine, on se qualifiera pour les quarts de finale. Et ensuite, en 2011, lorsqu'on est en finale de cette Coupe
c'est
du Monde,
on n'était pas favori.
Bah, on était non seulement pas favori, mais si on avait fait la même émission, vous m'auriez posé la même question on aurait eu les mêmes réserves. Oui. Là, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse aller jusqu'en finale, mais je pense qu'on peut créer la surprise face à l'Argentine, se qualifier pour les quarts de finale et ensuite, tout est ouvert.
Moi, je ne dirais pas de mal de l'équipe de France, je me souviens trop d'Aimé Jacquet en 98 en foot, oui, c'est clair. Ce qu'on disait avant la Coupe du Monde,
ouais,
on ne pensait
enfin,
pas la gagner.
À l'époque, l'équipe de France était quand même un peu plus favorite,
vrai,
en tout cas faisait partie des outsiders, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est peut-être une force, c'est-à-dire que cette équipe de France, regardez ce qui s'est passé en basket hier, personne n'imaginait que la France puisse battre les États-Unis.
Et finalement.
Voilà, on a battu les États-Unis après avoir perdu contre l'Australie. Donc, servons-nous de cet exemple-là. Moi, j'aime être optimiste.
Et Chauvin.
C'est vrai.
Le surtout Chauvin. De la Coupe du Monde de rugby sur TF1. Denis Brognard est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue. 2 heures pour muscler vos zygomatiques sans pour autant mettre vos cerveaux en veille par l'entremise d'une redoutable compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Qui décrochera le titre prestigieux de chroniqueur du jour? Comme Jacques Brunel, le coach du 15 de France à ses joueurs, j'ai envie de dire à Jérôme Lacroix...
Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Jérôme Lacroix qui va nous parler de l'incroyable polémique Caster Semenya, cet athlète hyper androgène qui, selon la Fédération Internationale d'Athlétisme, sécrète trop de testostérone pour concourir avec les femmes. Sauf qu'elle est une femme. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures d'allégresse informative en compagnie d'Eva Rock, Alain Acco, notre invité d'honneur Denis Brognard, avec qui cet après-midi on parle rugby, on parle dépassement de soi, on parle athlète de haut niveau. Et justement, notre premier journaliste en compétition aujourd'hui en a plein.
Les muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile. Les muscles bien huilés sont une formidable source de puissance.
Démonstration avec vous, Jérôme. Voici celui que Jacques Brunel n'a pas retenu et qui va beaucoup manquer au 15 de France au Japon, Jérôme Lacroix.
Oh, j'aurais pu faire un 3 carrés, là, c'est pas mal. Hein.
Oui,
un petit rapide, non
oui, bon. Je sais pas, sur la vivacité. Enfin, Jérôme Lacroix, cet après-midi, vous nous parlez d'une athlète autour de laquelle une polémique est née, polémique sportive et éthique.
Et tout d'abord, Mathieu, avant de démarrer, une Madeleine de Proust.
Stéphane Diagana est toujours devant, il faut qu'il tienne. Stéphane Diagana va gagner le titre mondial. Stéphane Diagana est champion du monde.
Ah oui.
4 août 97,
il y a 22 ans.
C'était pas hier. Hein.
Alors, Denis Brognard, commentateur sportif sur Europe 1, le français Stéphane Diagana, champion du monde du 400 mètres, c'était à Athènes. Vous commentiez ce jour-là.
La tentative de séduction de l'invité pour récolter les points, c'est bien joué, c'est pas mal. C'est pas mal.
Et en plus, c'est un très grand souvenir parce que ça m'avait valu le micro d'or.
Le micro d'or.
Eh oui. C'est une, ben oui, c'est une distinction de l'Union des journalistes sportifs en télé et en radio. Et voilà, je l'avais gagné cette année-là pour effectivement ce commentaire du titre mondial sur 400
mètres. Je vous l'aurais donné aussi parce que j'avais sélectionné plusieurs archives et j'ai choisi celle-là sans savoir.
Bon, Jérôme, futur ou pas, micro d'or. Continuez.
Archives, figurez-vous, pas choisies au hasard. On parlait d'athlétisme parce que c'est une histoire d'athlétisme que je vous raconte ce matin. Connaissez-vous Caster Semenya, sud-africaine, 28 ans, athlète. Donc elle court le 800 mètres, double championne olympique, triple championne du monde. Sauf que voilà, elle est, vous le disiez, hyper androgène. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sécrète naturellement plus de testostérone que les autres filles, une prédisposition naturelle qui l'avantagerait en compétition selon certains. Alors son histoire, ça commence il y a 10 ans, Berlin 2009, boum, une gamine de 18 ans, sacrée championne du monde du 800 mètres, loin, mais alors très loin, 15 mètres exactement, devant ses concurrentes. Et c'est pas son chrono qui est scruté, ce sont ses épaules carrées, sa poitrine inexistante, sa façon de courir les genoux très haut, tout comme les garçons. Et voici, écoutez, le genre de questions auxquelles elle est confrontée juste après sa victoire. J'ai entendu dire qu'à la naissance, vous étiez un garçon. Que répondez-vous? Je ne sais pas qui raconte ça, elle répond. Et j'en ai rien à faire. Mais la Fédération internationale, elle est gênée. Est-ce bien une femme? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est de la triche. Et sa médaille d'or doit alors être validée par des tests de féminité. L'expérience la plus humiliante de ma vie, elle dira, traité comme un rat de laboratoire, ce sont ses mots. Évidemment, très humiliant, ce sont les examens de ses parties génitales. Elle est remise en cause dans son genre. Pour la première fois de sa vie, on parle d'une ado de 18 ans à ce moment-là, des radios, des scanners, des tests physiques, puis gynécologue, endocrinologue, psychologue aussi, ouais. Forcément. Résultats confidentiels, ils n'ont jamais fuité. Mais la fédération, suite à ces tests de féminité, la fédération internationale lui dit, si tu veux courir à nouveau, tu dois faire baisser ton taux de testostérone par une opération ou un traitement hormonal à base de médicaments.
Un traitement qu'elle va suivre et les effets secondaires seront lourds.
Fièvre, prise de poids, nausées, douleurs abdominales. En 2015, elle arrête de le prendre parce que le tribunal arbitral du sport, la plus haute juridiction sportive, rembarre la Fédération internationale et son traitement parce que, ça c'est important de le dire, jamais la science n'a établi de lien entre fort taux de testostérone et amélioration des performances. Mais la Fédération internationale, elle ne lâche pas. Nouvelle interdiction pour Semenya en 2018 qui cette fois sera validée. On lui redit interdiction de courir le 800 mètres si tu ne prends pas le traitement. Et la jeune femme dit non, plus jamais je ne prendrai ce traitement. Alors aujourd'hui, comme un pied de nez, elle change de sport, au moins provisoirement. Comme elle a refusé de prendre le traitement hormonal, elle ne participe pas au championnat du monde de Doha qui démarre la semaine prochaine. Elle vient de s'engager dans un club de foot de Johannesburg, dans son pays où elle est une icône. À chaque fois qu'elle sort, la foule se plaît à chanter sa « She's a golden girl ». Des portraits de Semenya sont dans les rues et dans les bars branchés de la jeunesse noire, parce que c'est aussi ça. Sa réussite et son combat sont un symbole pour énormément de Sud-Africaines et de Sud-Africains.
Merci Jérôme Lacroix pour ce sujet. Denis Brognard, ouais, vous connaissez évidemment cette histoire.
C'est très impressionnant et en plus, elle succède au palmarès sur 800 mètres à une autre jeune femme qui avait les mêmes problèmes. Alors à l'époque, on en parlait beaucoup moins. C'est la représentante du Mozambique, Maria Mutola, qui a gagné pendant je sais pas combien de temps. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, ces gens-là, on les détecte pas dès les premiers mois de leur vie. Alors qu'en France, en Europe, il y a un traitement hormonal qui est donné aux enfants et qui change la donne.
Eh bien, c'était l'info en plus de Denis Brognard.
Je vais essayer de concourir moi aussi aux chroniqueurs de la journée.
Je vous donnerai peut-être mon point à la fin de l'émission. Ça serait une première dans cette émission. Il s'apprête à présenter le mag de la Coupe du Monde de rugby sur TF1 pendant plus d'un mois. Denis Brognard est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, l'exigence intellectuelle d'un congrès du CERN, l'ambiance potage d'une troisième mi-temps. Chaque après-midi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 se défient à coups de chronique au service de votre culture générale. Un seul sera élu chroniqueur du jour, peut-être Alain Accot, emblématique chef du service police-justice d'Europe 1, avec une histoire de feu d'artifice et de cimetière. J'ai pas trop compris dans quel ordre. Eva, vous avez compris, vous ?
Alors moi, j'imagine un truc très sordide. Hein.
Oui, non, mais ne projetez pas vos fantasmes non plus. À tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Roque, Alain Accot, Jérôme Lacroix. 2 heures d'une compétition plus cruelle que l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta. Les journalistes de la rédaction se tirent la bourre pour vous offrir le sujet le plus étonnant, l'histoire la plus édifiante. Et comme dirait notre invité d'honneur Denis Brognard,
à la fin, il n'en restera qu'un.
À suivre. Exactement. Alain Accot a du métier, il est chef du service police-justice. Il sait qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est donc évidemment avec un fait divers fumant qu'il a choisi de faire son entrée dans la compétition. Jérôme Lacroix peut trembler. Ah, il est tombé. Dommage pour lui. Alain Accot peaufine son texte. Le temps d'écouter Gauthier, Someone That I Used To Know sur Europe 1. C'était Gauthier, et non pas Gauthy, comme je le pensais, Eva Roque. Someone That I Used To Know sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une épatante, quoique un peu bordélique, compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Aucun contrôle antidopage, du coup certains comme Jérôme Lacroix y vont plein pot.
Pour être bien sur la bonne montée, il faut démarrer. Non. Ou alors il faut se faire un bloc à 4 heures.
Mais non, mais non.
Faut arriver à jeun à 2 heures.
Jérôme, je vous en prie, ayez au moins la pudeur de faire ça discrètement. Pour départager ces énergumènes en fin d'émission, vous, évidemment via Twitter, et notre invité arbitre du jour, habitué à trancher dans le vif sans scrupule.
Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre.
Denis Brognard nous accompagne jusqu'à 18h pour
faites
fêter.
Faites attention, Mathieu, je peux peut-être vous le dire à vous. Faites attention, c'est le début de la saison. Attention, Mathieu. Prenez votre sac, quittez le studio et rentrez place, chez vous.
Laissez la place à Eva Roque.
Voilà. Pourquoi j'hésite parce que comme elle parle de Gauthy.
Oui, vous voyez bien qu'elle n'est pas encore prête pour reprendre une émission.
Non, elle n'est pas encore prête.
Denis Brognard nous accompagne jusqu'à 18h pour fêter la Coupe du Monde de rugby qui démarre vendredi prochain au Japon. Il présentera autour des grandes rencontres le journal de la Coupe du Monde sur TF1. Et alors justement, après 20 ans de Koh-Lanta, vous êtes devenu indissociable de cette émission à tel point que lorsqu'ils vous voient présenter ou parler d'un sport, certains vous disent « qu'est-ce que tu fous là ?»
Mais c'est vrai, il n'y a que Alain Accot finalement autour de cette table qui sait que j'ai commencé.
Bah,
voilà, que je suis
sportif.
Journaliste de sport. Et c'est vrai que dans la rue, le nombre de gens qui... Alors un peu moins maintenant, notamment depuis la victoire de l'équipe de France il y a 2 ans en Coupe du Monde. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent, mais pour beaucoup, je suis né avec Koh-Lanta et pas avec ce que j'ai fait avant. J'ai commencé en 90 sur les réseaux de Radio France, puis je suis arrivé à Europe 1 où j'ai travaillé au service des sports longtemps. Ma passion première, mon ADN, c'est le sport et c'est vrai que c'est indissociable de toute ma vie professionnelle.
C'est-à-dire que quand vous étiez jeune, à l'école de journalisme, vous ne rêviez pas d'être animateur vedette, vous rêviez d'être Thierry Roland.
Exactement. Mon objectif, c'était de commenter du foot, de commenter du sport à la télévision pour aller sur le terrain. Finalement, c'est ce que je dis aux jeunes journalistes aujourd'hui. Quand on commence et qu'on est passionné par le sport, on paye pour aller dans un stade et pour voir des événements. Après, on est payé pour faire la même chose en commentant. Voilà, c'était ça mon objectif. Je rêvais de ça. J'y suis à moitié arrivé, mais ensuite
La modestie du micro d'or était patente.
J'ai changé de vie, mais j'ai commenté l'athlétisme longtemps, notamment ce sport qui me passionne.
Vous avez même été speaker au Stade de France pour une compétition d'athlétisme.
Exactement. Ouais. Ouais.
Le 1er août dernier, vous avez fêté vos 20 ans à TF1. Ouais. Quand on connaît la longévité habituelle des animateurs, à quel moment vous allez nous avouer que vous avez un collier d'immunité? Comment vous vivez cette longévité?
Je suis monté au 14e étage, là où il y a toute la direction, et dans un tiroir du bureau de Gilles Pélisson, j'ai trouvé un collier d'immunité, mais c'est la première fois que je le dis.
Ouais.
Voilà, le patron de TF1, je l'ai mis autour de mon cou. Mais c'est vrai, et vous savez que quand on est à TF1 depuis 20 ans, on a une médaille et un petit cadeau. Donc voilà, j'attends ma médaille et mon cadeau. Je ne l'ai pas encore reçu, mais 20 ans. Mais c'est une maison qui est fidèle. Il y a plein de gens qui disent « Ah, TF1, ça doit être terrible, c'est une boîte où on ne fait pas de cadeaux ». Bah, je pense qu'à TF1, on a une longévité, notamment au niveau des animateurs, beaucoup plus grande que sur les autres chaînes.
Oui, mais ce n'est pas de la philanthropie, c'est surtout vos audiences sont toujours aussi bonnes, je crois. Eva,
ah bah,
vous qui êtes spécialiste média à Koh-Lanta,
Koh-Lanta, c'est un ovni dans le paysage télévisuel français, parce que depuis 2001, les audiences, on dépasse régulièrement les 25% de part d'audience, si je ne me trompe pas. Enfin, je dis ça de
bien
mémoire.
Sûr.
Vous êtes évidemment monté beaucoup plus haut, mais dans un paysage qui a été totalement remodelé, Koh-Lanta, c'est une franchise TF1 qui est considérable.
Et surtout, on est entre 35 et 40% sur la cible. La
ouais.
plus importante, celle des femmes de moins de 50 ans.
Je sens qu'entre spécialistes médias, vous êtes chauds tous les deux là. Eva
Roth, Denis
Brognard, c'est une sacrée rencontre. La Coupe du Monde de rugby démarre la semaine prochaine. Elle est à suivre en intégralité sur les chaînes du groupe TF1. Denis Brognard passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures au service de votre bonne humeur et de votre culture générale. 2 heures aussi pour aider le DRH d'Europe 1 à faire le tri parmi les journalistes
c'est
qui
horrible.
Se donnent à fond et ceux qui se la coulent douce. Dans un instant, l'entrée en lice d'un nouveau concurrent qui a opté pour un fait divers qu'on espère gratiner. Denis Brognard, votre analyse à ce stade?
C'est déjà une tribu jaune divisée qui se présente au conseil.
Oui, oui.
C'est une tribu jaune angoissée.
Oui, oui. Enfin, nous, on est surtout là pour déconner, Denis, quand même. A tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage. Continue 2 heures pour piquer votre curiosité et départager les meilleurs journalistes d'Europe 1. Pas de collier d'immunité ici, chacun pour soi et Dieu pour tous, sous l'œil de celui qui est pour eux un demi-dieu, puisque son vote comptera triple en fin d'émission. C'est Denis Brognard qui nous accompagne. Il s'apprête à présenter le journal de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule au Japon. Alors Denis Brognard, c'est évidemment le sport sur TF1, c'est évidemment Koh-Lanta, mais pour les jeunes addicts des réseaux sociaux, c'est surtout un mot. Vous voyez ce que je veux dire, Denis?
Ah!
C'est devenu ce qu'on appelle un mème, ce A. Du coup, vous faites gaffe à ne plus jamais dire A.
Non, au contraire. Ah. Au contraire, même dans les voix off de Koh-Lanta, de temps en temps, je fais A. Les rouges sont désespérés. Et j'essaye de le cultiver. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que quand ça a commencé, avec ce clip qui m'avait été envoyé par un internaute, j'avais trouvé ça très drôle, mais je vous promets qu'il y a certaines phrases. Par exemple, j'ai une phrase sur les plateaux où je dis de temps en temps, je me tourne vers vous. Et parfois, je me tourne même pas. Et ma réalisatrice me dit souvent, Denis, arrête de dire je me tourne ou au moins tourne-toi dans ces cas-là. Mais je vous jure que personne avant cet internaute ne m'avait parlé de ce fameux A qui est un A interrogatif, genre
oui.
J'y crois pas du tout.
Exactement.
Ouais, c'est un peu ça. Quoi.
Exactement. Et si je vous dis, mon cher Denis Brognard, que le deuxième journaliste en compétition aujourd'hui n'est autre qu'Alain Accot, votre ancien collègue sur Europe 1.
Ah
Alain Accot, vous êtes chef du service police-justice d'Europe 1. Vous faites vos grands débuts dans la compétition aujourd'hui. Denis, vous connaissez bien Alain. D'après vous, il a ses chances?
Ça fait pratiquement 10 ans qu'il rêve de revenir. Il est là et il est prêt à défendre sa chance.
Alain Accot, vous allez nous raconter ce qu'on a coutume d'appeler un peu facilement, parfois avec une pointe de mépris, une histoire de cloche-merle. Une histoire de feux d'artifice dans un cimetière qui met le feu aux poudres chaque été dans un village du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh oui, ça se passe à Pendagenet, une jolie petite cité médiévale de 2500 habitants. Depuis quelques années, début août, le maire fait tirer un très beau feu d'artifice, un spectacle pyrotechnique, son et lumière, qui illumine et embrase la basilique de Peyragudes qui surplombe le village. Sauf que depuis 3 ans, ce feu d'artifice met en pétard une habitante de la commune. Elle s'appelle Christiane, et Christiane ne décolère pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a découvert que le feu d'artifice qu'elle était la première à applaudir, ce feu d'artifice est tiré depuis le cimetière où sont enterrés ses parents.
Depuis et là, Eva Rock, la production mais quand même de très haut niveau, Eva Rock nous montre des photos imprimées visiblement à la va-vite sur une imprimante moyennement couleur.
On a trouvé ça.
Il faut changer les cartouches.
Mais oui, mais regardez, c'est vraiment les cartouches de feu d'artifice
elles
dans le cimetière.
Elles sont tirées à même les tombes, quoi. Voilà. Oui, effectivement, c'est
par
étonnant.
C'est pas vous qui faites la photo parce que la personne est beaucoup plus grande.
Non, c'est la dame qui a fait la photo.
C'est Christiane, c'est le dossier. Ce sont les preuves réunies par Christiane. Car depuis 3 ans, les artificiers installent tout leur matériel, toutes leurs fusées entre les tombes. Et sur le coup de 23h, les allées du cimetière servent de pas de tir, donc, à ce spectacle son et lumière. Alors, pour convaincre ses amis qui ne voulaient pas la croire, Christiane est allée faire ses photos. Elle les a envoyées au journal local, La Dépêche du Midi, qui a fait un article l'année dernière. Mais cela n'a rien changé. En tout cas, ça n'a pas ému le maire de la commune. Dialogue de sourds. Enfin, dialogue, c'est un grand mot, car Christiane ne veut pas en entendre parler.
Non, non, le maire, je ne lui parle pas parce que ce monsieur dit que Madame Vidal, on la connaît. Bon, je suis né dans le village, hein. Ça fait 67 ans que je suis là, je connais, et que je suis contre tout. C'est pas vrai, je suis pas contre tout, mais que pour le respect des familles, on ne le tirait pas dans un cimetière. Moi, j'ai mes parents là-dedans, il y a des tombes, je suis pas la seule. Je n'irai pas m'amuser dans un cimetière, point barre, c'est tout.
Et le maire, qu'est-ce qu'il dit dans cette affaire ?
Alors le maire, il s'est expliqué il y a quelques jours sur une radio locale, Radio 4. Il explique que le cimetière fait partie du domaine public, que rien dans les textes administratifs n'interdit de l'utiliser comme un pas de tir, que les tombes sont préservées, nettoyées, débarrassées de tous les débris qui retombent du ciel, et surtout qu'il n'y a pas de volonté de sa part de manquer de respect à qui que ce soit, ni les morts, ni les vivants.
Mais j'ai l'impression que Christiane ne veut rien entendre.
Ah ben non, 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 elle continue le combat et elle n'est pas prête d'arrêter.
J'ai écrit à la préfecture qui, l'année dernière, elle avait dit qu'elle essaierait de faire le nécessaire pour pas que ça se reproduise, mais je vois que c'est pareil. Et cette année, ça a recommencé. Mais ça, je vais me battre et je vais faire le tour, je vais faire une pétition dans le village. Parce que si c'était des enfants qui s'amusent dans le cimetière et qui tirent des pétards et tout ça, vous croyez qu'on dirait rien ?
Bah oui, elle a raison, Christiane. Si c'était des gamins qui faisaient ça, on les engueulerait.
Bah oui, mais si c'est un événement municipal et que c'est cautionné. Bah, moi, ça ne me choque pas, non, descendre peuvent... dans un cimetière.
Mais bon. Ils peuvent peut-être le... Oh, c'est horrible.
Je suis
non,
horrible,
mais ils peuvent peut-être le tirer ailleurs que dans le cimetière, non, Alain ? Enfin, j'imagine.
Elle propose de tirer depuis le chemin qui est à côté du cimetière, mais pour ça, il faut raser les arbres.
Ah oui,
ça pose un autre problème aussi. Ouais. Tuer des arbres ou... Bref, merci Alain Acco. Votre chronique mérite-t-elle 3 points ? Notre invité Denis Brognard vous le dira juste avant 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue et c'est Aristote qui avait raison. L'homme est un loup pour l'homme. En tout cas, le journaliste est un loup pour le journaliste. Puisque désormais, chaque après-midi sur Europe 1, ils s'affrontent au service de votre culture G et de votre bonne humeur. 4 chroniqueurs, un seul vainqueur, celui dont le sujet vous aura le plus intrigué. Tous les jours, la compétition est impitoyable, mais elle est encore plus aujourd'hui, puisque notre invité arbitre n'est autre que l'implacable Denis Brognard, dont le cœur de métier depuis 20 ans est précisément de jarter sans scrupule des types qui ont tout donné et qui bouffent 7 grains de riz par jour depuis 2 semaines. Fatalement, tout à l'heure, avec les journalistes d'Europe 1, il a été assez cash.
Vous allez au conseil, si vous êtes éliminé, j'éteins le flambeau et c'est terminé, vous rentrez à Paris.
Heureusement qu'ils sont déjà à Paris. À suivre, 20 ans donc qu'il prend un plaisir sadique à proposer à des types affamés toutes sortes de jeux pervers, poteaux, roulades, ingestion de larves gluantes, et bien à son tour de se farcir une épreuve, et bien pire qu'une dégustation de limaces, un quiz contre Eva Rock.
Ah !
Comme vous dites, restez avec nous.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. 2 heures également pour découvrir une vedette sous un autre angle, plus intimiste. En effet, le caractère exigu du studio Coluche me permet d'établir avec mon invité un lien que je qualifierais de privilégié, comme hier avec Jeanne Chéral. On était, comment dire, on était quoi ?
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Ben, je sais pas, mais c'est... Enfin...
Deux étrangers...
Oui, bon, bref. Oui, aujourd'hui, on reçoit Denis Brognard. Denis Brognard, dans une semaine, c'est le début
en
de la Coupe
cas,
du
vous
Monde.
Vous êtes étranger à Koh-Lanta quand vous me parlez de roulade.
Ah oui, c'est vrai. Oui, Denis était un petit peu choqué, puisque tout à l'heure, j'ai évoqué les grandes épreuves.
L'épreuve
oui. Des poteaux, l'épreuve de la roulade.
Non, effectivement, non, la roulade, non, la roulade, c'est ce que vous faites avec vos enfants.
Mais ça serait pas mal, cette épreuve.
Mais c'est
il
bien,
roule, ouais. Et le premier...
Ouais, puis ça demande peu de moyens,
finalement. Voilà, vous rentabilisez encore mieux l'émission. Mmh. Denis Brognard, dans une semaine, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Une compétition.
Ils vont faire des roulades
sur les antennes du groupe TF1. Alors, on le rappelle, dans le groupe de la mort, hélas. Alors, ouais. Denis Brognard, les amoureux de l'Ovalie le savent, s'il est très difficile de battre l'Argentine ou l'Angleterre, il est encore plus difficile de battre Eva Rock sur un quiz.
C'est vrai.
Voici qui veut gagner un set de table Alain Aco. Denis Brognard, en hommage à l'épreuve des poteaux en particulier et au sadisme en général qui règne dans Koh-Lanta, le quiz portera...
Non, arrêtez de parler de sadisme, Mathieu. S'il y a bien un mot que je déteste, et c'est celui-ci. Gardez-le pour votre émission.
Vous allez voir.
Sur le fait de départager vos chroniqueurs.
Vous n'y échapperez pas quand même. Un quiz sur les performances physiques inhumaines. C'est un vrai faux. Vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Denis, Guy Yang s'est suspendu à une perceuse accrochée au plafond. Plus il appuyait sur la gâchette, plus il tournait vite. Il a fait 141 tours en une minute. Vrai ou faux?
Ça veut dire plus, ça veut dire près de 3 tours par seconde. C'est un truc de dingue. Allez, parce que ça m'amuse, je dis vrai.
Et vous avez raison. Il a réalisé cette performance totalement inutile à la télévision allemande, où on voit décidément de belles choses. Il était d'ailleurs opposé à un Français qui n'a réussi lui à faire que 83 tours.
Même. Ça peut être une prochaine épreuve de Koh-Lanta.
Mais voilà, pourquoi pas. Je vous fournis des idées clés en main.
Moi, je préfère ça à la roulade. Hein, perso.
Ça devrait plus plaire aux téléspectateurs. Eva Rock, Joseph Todling est autrichien. Et il a le record de la plus longue distance parcourue tirée par terre par un cheval alors qu'il était en feu. Joseph, pas le cheval. D'après vous, est-ce vrai ou faux?
Mais non, le pauvre garçon en feu, non, c'est faux ça. C'est horrible comme histoire.
Mais n'oubliez pas qu'on est en Autriche. Tout est possible, la réponse est vraie.
C'est pas vrai.
500 mètres, record impressionnant, même s'il est le seul à avoir tenté de le faire. Joseph est cascadeur professionnel, il a également le record de durée en torche humaine sans assistance respiratoire. 5 minutes 41. Il y a vraiment des fous. Attention,
ça me rappelle un candidat de Ninja Warrior qui était arrivé et qui nous avait fait la démonstration. Il était champion du monde du cassé de noix avec ses fesses.
Ah oui.
Alors attention, vous répondez ensemble les amis. Une question, trois propositions. En juillet dernier, France 3 a consacré un reportage très impressionnant à Jimmy Defresne, un Belge de 48 ans. Quel record a-t-il établi? 1. Il est resté 120 heures assis sur des toilettes. 2. Il a joué du clairon en faisant le cochon pendu pendant 3 heures. Ou 3. Il a mangé son poids en frites en 8 jours.
Moi j'ai dit 3.
Les
en Belgique,
en 8 jours.
Ah oui, alors moi j'aurais dit le clairon en cochon pendu là.
Fiasco total pour vous. C'était la réponse 1. Il est resté 120 heures assis sur des toilettes.
Bah,
c'était pour la bonne cause. Il faisait payer.
Ben,
essayez de rester 120 heures sur les toilettes.
Bah, vous dormez, c'est pas grave.
Vous dormez sur les toilettes, mais qu'est-ce que vous racontez?
Bah, vous pouvez dormir assis, donc c'est pas un exploit.
Il faisait payer les gens qui se prenaient en photo avec lui sur les toilettes. Il a récolté 250 euros pour une œuvre caritative. Ben, 250 euros en 120 heures.
Oh, il est pas très fort.
Il aurait pu
quand
récolter
même,
plus. Hein.
Vous savez à quoi ça fait penser? Vous avez vu ce film avec Poulvord, Les convoyeurs attendent?
Ah, oui.
Hein, on était en Belgique déjà.
Ouais.
Et là, ce type voulait. Il était garde barrière et un peu journaliste. Et il avait l'objectif de rentrer dans le livre des records, mais il n'avait aucune compétence. Et il avait demandé à son fils adolescent de passer le plus de fois une porte d'un côté et de l'autre pendant 24 heures. Et il avait monté un châssis de porte dans son jardin. C'était terrible.
Je vous recommande ce film dont vous entendez de temps à autre des répliques dans notre émission.
Ouais, j'adore.
Eva
Rock, en noir et blanc, magnifique.
C'est un soldat de la marine chinoise qui a le record de non-clignement des yeux. Il a réussi à rester 57 minutes sans bouger un cil. Vrai ou faux?
Ah, j'irais vrai, mais c'est horrible.
Et c'est vrai, Eva.
Ah ouais.
Il est technicien balistique, il a tenu 57 minutes et 24 secondes. Le précédent record était de 40 minutes. Denis Brognard, attention, c'est la question qui va vous les partager. À 66 ans, Shelby Morris vit à Memphis. Elle a battu un record en mars 2014. Elle a mangé 17 œufs, mais avec la coquille.
Oh,
vrai ou faux? Denis, tout se joue là.
Ouais, je sais, Mathieu. Franchement, depuis le début, il n'y a que des bonnes réponses. Il fallait toujours dire vrai.
Ouais.
Donc, je vais continuer à dire vrai. Si vous me dites que c'est faux, je le prendrai très très mal. Donc, je dis vrai, mais je ne comprends pas comment on peut bouffer autant d'œufs avec des coquilles. Mais bon.
Eh bien, je vous dis faux, Denis. C'était... Eh oui, vous
allez
détester,
mais
c'est comme
bien.
Ça. C'est comme ça. Ouh, il est génial ce jingle lose. Qui gagne le quiz?
On est à égalité.
Égalité parfaite. Bah, oui, personne ne remporte le set de table à la
cause.
C'est dommage.
On m'a reproché très souvent ça.
C'est-à-dire
le égalité parfaite. Une égalité est forcément parfaite.
Ah oui,
c'est vrai, c'est juste. Oui. J'ai dit égalité parfaite.
Mais moi je disais souvent
c'est parce
ça
que
aussi.
J'ai trop regardé Koh-Lanta, ça
ben
doit
voilà,
être pour ça.
C'est ça.
Et notamment l'épreuve
vous
de la
ne
roulade.
Plus.
La Coupe du Monde de rugby démarre vendredi prochain. Vous pourrez évidemment la suivre sur Europe 1, mais aussi en intégralité sur les chaînes du groupe TF1. Denis Brognard est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue, et même si leur point fort, c'est surtout la troisième mi-temps.
Ah ouais. Ah,
les journalistes d'Europe 1 continuent de s'affronter au service de votre culture G. À suivre, comme certains ont du mal avec le français, souvenons-nous.
Comment vous en êtes arrivé à devenir
plus de 600 heures par an.
Vous qui êtes si influente.
Vous qui êtes si influente, mon papa. Un livre pour vous, Eva. Le français zéro faute, ou comment surmonter enfin les subtilités de notre belle langue française. Son auteur, Daniel Lacote, sera notre invité actuel. Tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour satisfaire à la fois votre soif de savoir et vos penchants sadiques. Puisque désormais, chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se mettent sur la gueule afin de savoir qui sera le chroniqueur du jour, sous l'œil de notre invité d'honneur, Denis Brognard, qui n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il peut dire à des gens...
La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Vous allez mais vous régaler en fin d'émission, Denis. Vous en donnez à cœur joie. À suivre, les erreurs de français, on en commet tous. Un livre pourrait enfin nous t'aider à les éviter. L'auteur de 100% zéro faute sera avec nous dans un instant, juste après Yannick Noah. Viens sur Europe. Yannick Noah, c'était Viens, la chanson préférée de Julie d'Europe 1.
Oh oui, je viens.
L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la Ligue des champions des journalistes d'Europe 1 continue. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont le sujet vous aura le plus interloqué. Vous votez sur Twitter et Facebook. Eva Rock, ma complice, est là en tant que modératrice impartiale.
Mais lui, il est mauvais, très mauvais.
Non, Eva, n'influencez pas nos auditeurs, enfin. Vous nous donnerez votre avis après qu'ils se sont exprimés. Après qu'ils se sont... après quoi ? Vite, appelons un professionnel à la rescousse. Bonjour Daniel Lacote.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes linguiste, vous publiez 100% zéro faute chez First Edition. Alors avant d'atteindre le zéro faute, en moyenne les Français sont à combien de fautes ? On va dire par SMS par exemple.
Oula.
Alors là le SMS c'est un vrai problème et je vais peut-être vous étonner mais comme j'ai eu la grande chance de bien connaître Jacques Prévert et Philippe Soupeau, ces deux grands personnages de la littérature qui, comme vous le savez, ont trempé dans le dadaïsme, le surréalisme, etc. Je ne vais pas parler pour eux, mais je suis sûr qu'ils s'amuseraient de lire certains textos dans lesquels il y a volontairement des fautes. Si vous voulez, quand on écrit sur un texto cadeau, KDO, ça ne me gêne pas fondamentalement. Non. Parce que si vous savez que ça s'écrit CADEI, bon, c'est pas très gênant.
Mais encore faut-il le savoir.
Voilà, encore faut-il le savoir. Il y a donc vraiment, à travers le texto, pas les courriels, hein, mais à travers le texto, il y a parfois une inventivité du vocabulaire, de la graphie, de la façon d'écrire. Donc voilà. Alors, quand je reçois un courriel, je vois tout de suite, même s'il n'y a que 3 lignes, je vois tout de suite si la personne manie correctement la langue française. Et c'est pas seulement l'orthographe, vous voyez, c'est aussi la syntaxe, c'est la façon de dire les choses, de l'expliquer clairement, si vous voulez. Quoi.
Alors, il y a plein de conseils dans ce livre. Votre premier chapitre est destiné à Eva Rock, puisqu'il est consacré à la prononciation. Par exemple, faut-il prononcer les X dans Auxerre ou Bruxelles ?
Non, bien sûr que non. Non. Ce sont des S. Hein, donc il faut dire Bruxelles. Et il faut dire aussi Chamonix et pas Chamonix, même si les gens du coin continuent de prononcer un X. Mais après, il y a aussi l'usage, si vous voulez. C'est tout le problème de la langue française. Hein. Beaucoup de mots sont entrés dans le dictionnaire de l'Académie française parce que l'usage a fait qu'ils sont entrés dans le dictionnaire et pas rentrés. On entre et on ne rentre pas.
Vous parlez aussi des pléonasmes, je crois que j'en ai fait un tout à l'heure, quand j'ai parlé d'égalité parfaite.
Ouais. Oui,
ça,
oui.
Voilà, ça ne sert à rien de dire
ça. Les pléonasmes,
ça.
Si vous avez la liste, allez-y, vous ne gênez pas, hein, c'est quand même exceptionnel.
Se cotiser à plusieurs, ça c'est vrai que c'est un peu con.
Ouais, c'est ouais. Si on se cotise, hein, c'est forcément qu'on a été plusieurs à mettre un petit peu d'argent.
Le pluriel, ça aussi c'est un problème pour tout le monde. Comment doit-on orthographier les mots composés au pluriel comme gratte-ciel ou sans-abri quand c'est composé
couper.
Alors là, je ne sais jamais.
Il faut que vous nous donniez la règle pour pas qu'on oublie.
Gratte-ciel, si vous voulez, c'est assez simple puisque gratte est un verbe. Donc quand c'est un verbe, il reste au singulier
toujours.
Théoriquement. Théoriquement, hein, pas forcément toujours.
Ah, pas forcément, mais
c'est
ça qui est possible.
La difficulté. Ouais, c'est toute la difficulté. Et moi, je conseille toujours, quand vous avez une hésitation, bien sûr, vous allez vérifier dans le dictionnaire et dans un bon dictionnaire. Mais même quand on est professionnel de la chose, ici, il n'y a que des journalistes, on a tous fait ça. Il faut aller chercher dans le dictionnaire. Non, Mathieu, vous n'allez pas chercher dans le dictionnaire.
Si, si, mais je me considère comme un journaliste un peu particulier quand même.
Aguerri.
Ouais, non, vous êtes gentil. Vous terminez votre livre avec un chapitre consacré à la nouvelle orthographe et notamment la simplification de quelques mots comme oignon ou nénuphar, qui ne s'écrivent plus comme avant, hein, O-G-N-O-N. Est-ce qu'on va pas appauvrir la langue française pour se retrouver face à une langue phonétique proche du SMS, en fait? Est-ce que c'est moins exigeant?
Oui, là, je suis moins d'accord avec tout ça. J'en parle, mais je suis moins d'accord avec cette simplification, comme avec la fameuse féminisation du langage, alors qui est aussi tout un grand débat, parce qu'il y a des mots qu'on peut féminiser, il y en a d'autres qu'on ne peut absolument pas féminiser. Un médecin, par exemple, ça ne va pas devenir une médecine. Hein. Oui. Le mot médecine existe. Et le mot doctoresse existait. Bon, un auteur...
Une autrice.
Une auteure, je suis pas d'accord.
On
c'est
dit
plutôt
une autrice.
Il faut dire une autrice. Parce que là, je vais être pédant 30 secondes. C'est la morphologie du langage. Vous voyez, parce que à peu près tous les mots qui se terminent par T-E-U-R, alors illustrateur, illustratrice, réalisateur, réalisatrice, et etc. etc. Donc les chercheurs, c'est pareil. Chercheurs, certaines voudraient imposer chercheureux. Alors que le mot chercheuse existe depuis 1618.
Mais gardons-le.
Donc il faut garder ce qui existe déjà.
Daniel Lacote, 100% zéro faute chez First Edition. Merci Daniel Lacote d'avoir été avec nous sur Europe 1 cet après-midi.
Merci à vous.
Nul doute que nos auditeurs maîtriseront mieux le français après que vous leur ayez, que vous leur avez. Bref, merci Daniel Lacote. Lui, il ne commet jamais aucune faute. C'est un journaliste aussi polyvalent que brillant. Il s'apprête à présenter le MAC de la Coupe du Monde de rugby sur TF1 durant toute la durée de la compétition. Denis Brognard est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures d'une palpitante compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 dans l'arène, chauffée à blanc, ou plutôt chauffée au blanc, du studio Coluche. Entre deux ravitaillements, la compétition continue avec l'entrée en liste de 2 nouveaux candidats. On va parler bande dessinée, surf et éducation. Vous votez via Twitter, vous pouvez aussi appeler le 3921, mais c'est pas sûr que quelqu'un vous réponde. Il y en a qui ont essayé.
Non, ils sont occupés.
Comment ça, ils sont occupés?
Ils ont beaucoup mieux à faire que de s'occuper de pauvres types comme vous et moi.
Ils sont partis?
Non, ils baissent.
A tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures d'informations récréatives pour apprendre en s'amusant tout en assistant à une joyeuse empoignade entre les plus vigoureux journalistes de la rédaction d'Europe 1 qui chaque après-midi s'affrontent désormais au service de votre culture G sous l'œil d'un arbitre particulièrement redoutable aujourd'hui puisqu'il s'agit de Denis Brognard. Mais pas le Denis Brognard Robinson pervers de Koh-Lanta, non. Le Denis Brognard, journaliste sportif qui s'apprête à couvrir la Coupe du Monde de rugby qui démarre le 20 septembre au Japon. Et va, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de moderne sur le rugby en 2019?
Prenez pour Marie.
Ah oui, merci Eva pour cette touche moderne. Denis Brognard, on continue de parler de cet événement dont tous les matchs seront retransmis en direct sur TF1 ou sur les chaînes du groupe TF1, c'est bien ça?
C'est ça, TMC notamment. Et c'est bien qu'on ait l'intégralité de la compétition avec évidemment, pour les matchs de poule, les 4 matchs ô combien importants de l'équipe de France.
Mais d'abord, vous le savez, la compétition ici continue. À ma gauche, un journaliste qu'on ne muselle pas, un homme entier qui dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit.
Je couche si j'ai envie de coucher, je couche pas si j'ai pas envie.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1, mais n'oublions pas que vous êtes aussi le vice-chef adjoint délégué du service culture. Position qui vous permet, quand l'envie vous prend, de nous parler d'autre chose que de cinéma.
Tout à fait, je vais vous parler d'une bande dessinée aujourd'hui absolument bouleversante qui lie le deuil et le surf, vous verrez.
Car vous avez aussi un cœur. À ses côtés, Denis Brognard, elle ne tiendrait pas 2 jours dans Koh-Lanta. Après s'être fait éliminer suite à une alliance stratégique de candidats lui ayant probablement piqué son riz, elle aurait déclaré en partant
« Bisous, bisous !»
Trop gentil. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre spécialiste environnement et belles initiatives et vous occupez actuellement la 2e place du championnat européen. Avec quel sujet comptez-vous défendre cette place cet après-midi?
Je vais vous parler d'un chien, un dalmatien qui vient de faire son entrée au collège, son entrée dans un collège normand.
Pas de flatulence dans votre rubrique aujourd'hui?
Pas aujourd'hui.
Si on est 2e du classement avec des sujets comme ça, moi j'arrête tout. Hein.
Bah, est-ce que vous faites exprès de mettre parmi les chroniqueurs des gens avec qui j'ai travaillé pour me permettre de me sentir bien dans cette maison qui a été la mienne?
Mais tout est concocté sur mesure pour l'invité ici, évidemment. Quelle chronique préférez-vous, laquelle ne donnera pas envie à Denis Brognard de souffler la torche? Le suspense est immense, il est en tout cas Denis plus grand que celui autour du 15 de France qui va entrer dans la Coupe du Monde samedi prochain face à l'Argentine. Énorme équipe, hein, on peut parler de Dream Team, on pense à Gaël Ficou, à Antoine Dupont, à Bernard Leroux, ou encore évidemment Charles Olivon. Hein. Quant à Ali Verity Raka, avant l'émission Eva me demandait si c'était une marque d'anti-moustique. Franchement, de vous à moi Denis, le rugby français manque un peu de grand nom. Non, je plaisante évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas de Mbappé quoi, d'équivalent dans cette équipe de rugby.
Il va naître, vous pensez qu'il peut
surgir pendant la Coupe du Monde?
Vous parliez Dupont. Je pense que ça peut être l'une des belles révélations. Vous n'avez pas cité Damien Penaud qui est un ailier qui jouera côté droit. Je pense qu'il fait partie des tout meilleurs ailiers au monde. Et si ça veut sourire pour l'équipe de France, ça peut être peut-être l'un des leaders de demain. Donc,
et cette auquel équipe, cas, je passerai cette... pour un con et je le souhaite vraiment pour l'équipe de France.
Je l'espère aussi. Et puis n'oublions pas qu'il y a cette année... Non, je l'espère pour l'équipe de France plus que pour vous, cher Mathieu. Non, mais cette équipe de France, n'oublions pas que les moins de 20 ans sont les meilleurs du monde
oui,
aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, il y a une génération qui arrive.
La prochaine Coupe du Monde, elle est chez nous.
Et elle est pour nous.
Je l'espère. En tout cas, celle-ci, on va essayer de briller. Mais il y a pas mal d'optimisme sur la suite de l'histoire de l'équipe de France de rugby. Mais croyez bien que si ça me veut sourire, il y aura des joueurs que vous connaîtrez dans... Allez, dans quelques semaines, lorsque la Coupe du Monde se terminera.
Et je repasserai le son ridicule que mes paroles ridicules à ce moment-là et je m'autocasserai. Alors Denis Brognard, vous dites souvent que l'image de Koh-Lanta vous colle à la peau. Est-ce que c'est si vrai que ça? On est allé vous demander à vous dans la rue ce que vous pensiez de Denis Brognard. Loin de nous l'idée de faire un vulgaire micro-trottoir à d'autres, hein, toujours monté pour mettre en valeur l'invité. Non, nous c'est un micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir mais sans montage. On a tout laissé.
Sur TF1, il me semble, non, c'est ça?
C'est de l'économie, Denis Brognard. Ça me dit quelque chose, vu que je suis en prépa économie. Enfin, ma prof, elle nous en a déjà.
Denis Brognard, c'est le mec de Koh-Lanta.
Ah ouais?
Le flambeau, là.
Les amis de Koh-Lanta ont décidé de vous éliminer et la sentence est irrévocable.
Je connais ses répliques, mais elle sait pas c'est qui.
Oh, un beau gosse. Très beau gosse, très grand, très mince.
Bel homme?
Sportif et bel homme, oui. C'est pas parce qu'on a les cheveux blancs qu'on ne doit pas regarder. Tant qu'on a des yeux, il faut regarder et apprécier.
Bon, bah, il présentait les voitures, les grands prix de Formule 1. Avant, il fait un truc aussi sur la télé, là, Ninja, quoi, quelque chose, là, chemise que, comme il faut à Koh-Lanta.
Ah, oh, Denis Brognard, ouais, je l'adore aussi. Beau, grand, maigre.
Koh-Lanta, animateur.
Oh, les humoristes.
Non, non, c'est pas humoriste, c'est très bien, très bien. Je l'aime beaucoup.
Denis Brognard. Ça me fait marrer parce que de temps en temps à la maison mes enfants m'appellent Thierry Brognard parce qu'un jour effectivement quelqu'un était venu me dire on peut faire une photo Thierry Brognard.
C'est vrai que c'est proche.
Donc, voilà.
Alors deux choses importantes quand même qu'on retient, que les gens retiennent, c'est que vous présentez Koh-Lanta et que vous êtes beau gosse.
Bah, ça, oui, ça va. Et que je suis mince.
C'est et que vous êtes mince.
Tout est vrai.
Oui, plus pourquoi vous êtes mince. Combien d'heures de sport vous faites par semaine?
Beaucoup, beaucoup. Enfin non, beaucoup. Je fais deux fois du vélo. Je vais nager une fois. Et puis je cours une fois.
La Coupe du Monde de rugby démarre dans une semaine. Vous pourrez la suivre en intégralité sur les chaînes du groupe TF1. Denis Brognard est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Roque, Anne Le Gall, Mathieu Charrier sont à mes côtés, c'est-à-dire trois personnes. Oui, vous écoutez l'Équipée Sauvage, l'émission qui coûte 1378 fois moins cher qu'un numéro de Koh-Lanta.
Budget marketing inclus.
Exact, Charrier. La compétition opposant les plus fiers journalistes de la rédaction continue avec un sujet qui va vous plaire, Eva, ça fait partie de vos grandes passions.
Les bars.
Non, le surf. Et plus précisément, une BD sur le surf. Denis Brognard, je crois que vous adorez le surf.
Alors je suis très 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 mauvais, mes enfants en font un peu, mais moi avec ma grande taille et mon manque d'équilibre, non, le surf c'est pas du tout pour moi.
Ah, complètement raté, Charrier, pensait que vous adorez le surf, non, vous vous êtes planté.
Non, vous aimez bien le sport en tant que tel, c'est pas pour autant que vous le pratiquez, le sport.
Non, c'est vrai que j'aime le surf comme sport, comme ça, mais c'est pas le sport que je suis en particulier. Je préfère le surf avec une voile, vous voyez, le windsurf.
Ah, ouais. J'adore voilà, quand Charrier se plante de sujet, c'est parfait. C'est fou comme tout s'emboîte à la perfection dans cette émission.
Ah ouais.
Non, Eva, pas ça. À tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Roque, Anne Le Gall et notre invité d'honneur Denis Brognard. Deux heures d'un affrontement épique entre les meilleurs journalistes de la rédaction. Car oui, Denis, désormais Europe 1, c'est... Et dans le rôle de JR, Mathieu Charrier se pose là. Ne lui manque que le chapeau et les lunettes fumées. Sinon, il a tout de l'ordure machiavélique, sa devise.
Un petit mensonge parfois ne vaut-il pas mieux qu'une vérité?
Bien sûr, Mathieu, autant vous dire qu'au classement général du championnat européen, vous n'êtes pas en tête, c'est un euphémisme.
Chou.
Vous êtes exactement 5e avec 7 points.
Oh bah ça va.
Ce qui n'est pas digne de votre rang de vice-chef adjoint du service culture. Avec quel sujet passionnant allez-vous vous ressaisir?
Je vais vous parler de la BD qui s'appelle In Waves, que je vous montre ici, qui fait partie de ces bandes dessinées qui vous bouleversent et qui font que vous n'êtes plus tout à fait le même après les avoir lues. En l'occurrence, c'est l'histoire vraie d'Adji et de Kristen. Ils vivent en Californie, elle est fan de surf, elle passe tous ses moments libres dans l'eau. Lui, au contraire, il a peur de l'eau, donc évidemment, à l'origine, rien ne les prédisposait à s'aimer. Mais les opposés s'attirent, comme on dit, ils vont se rencontrer au lycée, construire ensemble une belle histoire d'amour authentique, sauf que, quelques mois plus tard, Kristen apprend qu'elle est atteinte d'un d'un grave cancer. Alors Adji se met au surf pour profiter d'elle au maximum, partager des moments dans l'eau. Le temps passe, Kristen est amputée d'une jambe, mais qu'importe, elle met une prothèse, continue de surfer, tant bien que mal, le plus longtemps possible, jusqu'au moment où elle ne peut plus. Là, Adji prend le relais, si je puis dire, il est à l'eau, elle le regarde et écrira dans son journal intime « Voir mon mec surfer représente tout pour moi ». Le 22 février 2016, Kristen disparaît, emportée par la maladie, elle n'a même pas 30 ans. Évidemment, Adji est bouleversé, il va coucher son malheur sur le papier. Et c'est ce qui va donner cette bande dessinée absolument incroyable, parce que quand Kristen meurt, Adji est à la fin de ses années d'études en graphisme. Un jour, elle lui dit « Quand je serai parti, je veux vivre à travers ton art ». Et je peux vous dire qu'il l'a fait vraiment revivre, Kristen, dans ce livre qui est tout simplement magnifique, repéré par un éditeur américain à travers son projet de fin d'études. La BD est sortie il y a quelques jours en France par Casterman. Ce qui est beau aussi dans cette bande dessinée, c'est qu'Adji nous y raconte l'histoire du surf, comment depuis les premiers Polynésiens, ce sport a toujours représenté un moment d'évasion, de réconfort pour ceux qui le pratiquent. Donc l'auteur file la métaphore de la vague à travers la maladie qui va et vient et emporte tout sur son passage, à travers le surfeur aussi qui surmonte le deuil ou qui est submergé. Aujourd'hui, Adji surf chaque jour, je l'ai eu par téléphone depuis la Californie, il est bouleversant quand il raconte son histoire. Donc c'est une bande dessinée sur l'eau, sur l'amour, sur le surf, sur tout ce qui est beau, dessiné et coloré dans les tons sépia et bleu vert. Je fais passer la bande dessinée autour de la table pour que vous voyez ça. Moi, je mets un petit billet qui sera en sélection au prochain festival d'Angoulême. En tout cas, je le souhaite. Et vraiment, si vous devez acheter une bande dessinée en cette rentrée, c'est celle-là, In Waves, signée Adji Dungo. C'est chez Casterman Edition.
C'est magnifique. Moi, je vois déjà le film, non ? Ça pourrait donner une adaptation.
Mais c'est vraiment une BD que vous lisez. Moi, je l'ai lu trois fois depuis cet été. Voilà.
Ah, c'est rare de relire des bandes dessinées.
J'ai envie de dire, pour une fois, vous m'avez convaincu. Seul moyen, normalement, de vous déstabiliser.
La question vache de l'autre chroniqueur.
Vas-y,
mais là, c'est peut-être le moment le plus difficile pour poser une question vache. Anne, si vous réussissez à poser une question vache là-dessus, allez-y.
Je dois dire que c'est une histoire très touchante et bravo, vous avez touché mon côté bisounours. Mais j'ai une question perfide qui n'a rien à voir, mais qui a quelque chose à voir avec le surf. Est-ce que vous connaissez le point commun entre un surfeur, un kayakiste et l'homme de Néandertal?
Ah, je les connais, Bigard, il l'a fait l'autre jour, celle-ci.
Non, c'est pas vrai.
Non, c'est pas une blague. C'est très sérieux.
La candeur des baroques de Brunière, vous voyez, c'est merveilleux. Quel est le point commun?
Alors, ils ont une excroissance dans l'oreille, puisque les surfeurs comme les kayakistes, comme l'homme de Néandertal, s'immergent en eau froide. Et donc, c'est une réaction de l'organisme pour protéger le tympan. Il y a une excroissance qui peut pousser dans l'oreille en réaction avec l'eau froide
Anne
qui vient dans l'oreille.
C'est tout à fait normal, car vous avez un côté premier de la classe. Ce n'était pas une question vache, c'était une info en plus.
Ouais,
mais c'était très bien aussi. Voilà.
Je comprends pourquoi je fais pas de surf. J'ai pas d'excroissance dans l'oreille.
Ça doit être ça. Et oui, Denis Brogniard est notre invité. Votera-t-il pour vous, Mathieu, au conseil tout à l'heure? Réponse comme sur TF1, après la pub. Eva Rock, Mathieu Charrienne, Le Gall sont à mes côtés. L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 entre dans le Money Time. Allez quoi en régie, mettez-moi du yékéké yakéké. Ah, voilà. Car au fond, Eva, qu'est-ce que l'équipe est sauvage sinon une version trash de Koh-Lanta?
C'est vrai, mais habillée.
Oui, bien sûr, évidemment, on s'entend. À suivre justement une pause dans cette frénétique compétition, un îlot de fraîcheur dans cet océan de mesquinerie, notre décrochage régional. Aujourd'hui, on prendra la direction du sud pour découvrir les subtilités du parler marseillais.
Ah
non, Denis. Ah, bonne mère. C'est comme ça qu'on dit là-bas. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour vous divertir et vous amuser sans pour autant mettre vos cerveaux en veille. Les meilleurs journalistes d'Europe 1 rivalisent d'ingéniosité pour vous offrir les chroniques les plus captivantes. Dans un instant, Marseille, loin des clichés.
Ah, voilà, la pomponnette.
Nous retrouverons notre correspondante pour un décryptage du parler marseillais aux côtés d'un expert. Mais d'abord, vous connaissez Eva ?
Si j'étais chanteuse, je voudrais reprendre cette chanson.
Oui, mais heureusement pour nos auditeurs, vous n'êtes pas chanteuse. Voici You Say, Lauren Daigle sur Europe 1. You Say, c'était Lauren Daigle sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une éprouvante compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui ne craignent personne sous l'œil de notre invité du jour, l'éminemment sympathique Denis Brogniard. Ou plutôt, 2 heures d'une compétition un peu fada entre les moins baltringues des journaleux d'Europe 1 qui craignent des gains. Avec le tarpen sympa Denis Brogniard encore. Eva, que pensez-vous de mon imitation de l'accent marseillais?
En bouillabaisse.
Ah oui. On prend la direction de Marseille, retrouver notre correspondante. Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors vous avez déniché pour nous un guide pour apprendre le parler marseillais.
Oui, c'est un petit fascicule illustré de photos prises dans Marseille pour expliquer les mots et les expressions d'ici, celles d'aujourd'hui, toujours employées par la jeune génération et pas que par les vieux marseillais, bien au contraire. Exemple Mathieu, ça c'est facile. Si je vous dis dégain,
ça veut dire quoi? C'est le slogan de l'OM, on craint dégain, on craint personne.
Bon, on craint personne. Bon. Ouais.
C'est kafi, vous comprenez quoi?
Alors ça, je sais pas.
Kafi, ça veut dire... C'est rempli de monde. Plus dur, esquiché.
Ah si, esquiché, c'est serré très très fort.
Ah non.
Non, non, c'est serré très très fort.
Écrasé, voilà, être écrasé. J'ai pris une estomagade.
Ah ça, je dois être beurré comme un coin.
Non, une grosse frayeur. Ah, bah, bravo, une grosse frayeur.
Ah, pour moi, c'est pareil.
Marronné.
Marronné, enfin, c'est
réfléchir en, enfin cogiter quoi,
non.
C'est ça,
non? Râler, bougonner.
Ah, ah oui, c'est ça. Oui.
Ah, moi je marronne
un
jamais,
gâté,
donc.
Un gâté, un gâté. Je vous fais un gros gâté,
un
Mathieu.
Bisou.
Un câlin.
Un câlin.
Ah. Et je suis fanée.
Je suis fanée, je suis un peu, je suis évaroc.
Non, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Je allez, une petite dernière parce que je l'aime bien. Elle s'est fait estanquer.
La pudeur m'empêche de le dire. Non,
elle s'est fait arnaquer, arnaquer, arnaquer. Voilà, alors ça c'était pour les mots utilisés toujours hein, dans le quotidien, mais il y a aussi des combinaisons, des phrases qui peuvent vite devenir incompréhensibles pour un non-marseillais, un non-initié. Démonstration avec l'un des co-auteurs des expressions marseillaises et provençales illustrées, l'humoriste Laurent Febvé.
Franchement, il fait tarpin froid, tu t'es grave fait estanquer, tu ramènes ce gag.
Aïe, aïe, aïe. Et ça, ça veut dire quoi?
Alors, ça veut dire qu'il fait super froid, tu t'es vraiment fait voler, tu t'es vraiment fait arnaquer, tu es vraiment un âne.
Vraiment, vous utilisez ces mots-là, vous parlez comme ça?
Ah oui, oui, tout le temps. C'est difficile pour nous de parler sans exagérer, mais exagérer, ça veut pas dire mentir, c'est apporter de la métaphore à une phrase qui serait plate sans la métaphore, en fait.
C'est ce qui fait l'identité des Marseillais.
Et je pense, exagérer, c'est un peu ça. Même si ça change un peu le sens de l'histoire, même s'il n'a pas vraiment dit comme ça, c'est tellement plus drôle. Une que j'aime bien, c'est « tu es le sang », parce que ça me fait rire, et surtout parce que les mecs sont dans l'abus, quoi. « Tu es le sang de la rate, du pancréas, de la vésicule biliaire. » J'ai dit « les gars, c'est bon, voilà un cours d'anatomie, quoi. »
Et ça veut dire quoi, « tu es le sang » ?«
Tu es le sang », ça veut dire « tu es plus que mon frère, tu es comme une partie de moi-même, quoi, voilà. » Pour nous, on est complètement dans une autre dimension d'extrapolation permanente. Je pense que le Marseillais a un petit côté cacou, un petit côté bouffon parfois, mais il s'est rigolé de lui-même. Il y a une partie des Marseillais qui sont très chauvins et tu peux pas leur dire par exemple la ville est sale alors qu'elle est sale, mais il y a une partie des Marseillais qui disent « putain, bien sûr, c'est le bordel, tu vois pas, j'en ai marre, j'en peux plus. » Mais ils disent ça, mais en même temps, on y est toujours. C'est une espèce d'attraction, répulsion. C'est comme ça, Marseille.
On notera exagérer n'est pas mentir, Eva. On ça. Alors,
tu es le sang, Mathieu, tu es mon sang.
Il s'adresse à qui ce petit guide, Nathalie?
J'ai envie de vous dire que c'est finalement surtout pour les touristes hein, qui seraient un peu perdus avec toutes ces expressions. Certaines d'ailleurs résistent toujours autant comme peu cher, toujours employé, même par les minots. Peu cher qui veut dire en fait pauvre, on l'utilise pour exprimer de la compassion, de la pitié, un peu de moquerie aussi. Autre expression très ancienne, encore dans l'air du temps, fan de chichoune.
Mon grand-père, il le disait tout le temps, ça.
Ouais, alors c'est très dur à traduire. On l'emploie pour crier son étonnement, voire son admiration. Voilà, donc un petit guide indispensable pour décrypter le parler marseillais.
Merci beaucoup, Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Merci de nous avoir fait découvrir ce guide illustré des expressions marseillaises et provençales. Ce livre sortira chez Plume au mois d'octobre. De Marseille à Osaka, ça fait une sacrée trotte, mais il a l'habitude des voyages au long cours. On continue de parler de la Coupe du Monde de rugby qui démarre le 20 septembre et dont vous pourrez suivre tous les matchs sur les antennes du groupe TF1. Denis Brognard est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe est sauvage, elle avait créé la surprise avec son sujet sur les flatulences bovines. Notre invité Manu Payet, à qui je voulais expliquer que c'était une émission haut de gamme, mêlant légèreté et culture, avait été quelque peu désarçonné.
Je vais vous parler précisément des vaches à bas carbone. Il y a des vaches qui dégazent propre. Ce sera raffiné.
Ouais. Anne Le Gall, actuellement deuxième du championnat européen, va tenter de rester sur le podium avec un sujet à peu près aussi étrange, l'histoire édifiante d'un collégien pas comme les autres, et pour cause, c'est un chien. Eva, on touche du bois pour elle. Non, c'est pas du bois ça, Eva, enlevez votre main.
Oh, 16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Anne Le Gall, Mathieu Charrier, 2 heures d'un suspense digne de James Bond. Un seul journaliste d'Europe 1 sortira vivant du grand tournoi qui les oppose chaque après-midi sous l'œil complice mais pernicieux de notre invité arbitre du jour, Denis Brognard, venu fêter le début de la Coupe du Monde de rugby qu'il s'apprête à couvrir avec TF1 dès la semaine prochaine. Dans quelques instants, nous entendrons notre dernière candidate du jour avec son sujet sur le chien collégien. Anne Le Gall réussira-t-elle à séduire notre invité? Ou bien à la fin de son papier, Denis s'exclamera-t-il avec lassitude?
Franchement, Jennifer.
Anne s'appelle Anne, Denis. Alors on le disait, la Coupe du Monde de rugby démarre le 20 septembre, vendredi prochain au Japon. Le 15 de France entrera en lice le samedi matin face à l'Argentine. Votre pronostic, Denis?
La France va gagner. Et on le sait, si on gagne face à l'Argentine, on a de très fortes chances d'accéder au quart de finale. En revanche, si on perd ce match inaugural...
Il faudra gagner contre l'Angleterre.
Bah, il faudra gagner contre l'Angleterre qui fait partie des nations des favorites. Franchement, ce sera très compliqué.
Alors Denis, vous êtes certes très sympathique, mais il y a quelque chose d'extrêmement agaçant chez vous, c'est votre côté monsieur parfait. Il y a qu'à regarder votre Instagram, votre compte Instagram, contrairement à moi, qui poste essentiellement des photos de côte de bœuf, de paupiètes de veau, sauce rocamadour.
Ah, je le fais aussi, moi, la côte de bœuf.
Ou des varocs pionçant dans mon canapé après des paupiètes de veau rocamadour.
C'est vrai.
Vous C'est quand même la vie idéale de l'homme parfait, sportif. Vous faites du sport tout le temps, vélo, course à pied, vous êtes parfois avec Bichente Lizarazu, en toute décontraction.
Ouais.
Vous êtes un grand sportif dans la vie.
Ouais, j'aime ça. Et vous parlez de Bichente Lizarazu, c'est vrai qu'on a beaucoup roulé cet été. Mais si je suis un grand sportif, lui, c'est un dingue de sport.
Et vous arrivez à le suivre ?
Non. Il est resté sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il a le même rythme de vie que celui qui était le sien lorsqu'il joue au Bayern de Munich. Donc c'est un fou, il se lève très tôt, il se couche tôt. Il fait pas beaucoup d'excès, vous voyez. Mais en vélo, notamment dans l'école du Pays Basque, j'ai du mal à le suivre. Mais il m'attend haut.
Denis Brunner, vous êtes sportif, mais vous êtes un très très grand compétiteur. La vie, c'est une compétition pour vous.
C'est vrai que j'aime la compétition, surtout dans le sport. Je crois que c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'on se mesure d'abord à soi-même. Quand je cours un marathon, l'objectif, c'est pas de gagner parce que j'en suis tellement loin. Mais l'objectif, c'est de faire mieux que la fois précédente. C'est-à-dire que c'est vrai que je peux pas imaginer, par exemple, faire le marathon du Médoc. Parce que le marathon du Médoc, c'est un truc qu'on fait. Non, mais courir 42 kilomètres sans avoir un objectif, c'est quelque chose que je peux pas vraiment concevoir. Maintenant, on essaye toujours de faire mieux que la fois d'avant, sachant qu'à 50 ans passés, être champion du monde, ce sera pas possible. Et puis, j'en ai jamais eu le potentiel ni le talent.
Quand je parle de compétition, est-ce que vous arrivez à faire un match de tennis avec des potes sans vous énerver si vous perdez?
C'est vrai que je suis un vrai compétiteur. Ça fait un moment que j'ai pas joué au tennis avec ma rupture du tendon d'Achille, mais le tennis, c'est un sport qui me tape un peu sur le système de temps en temps. Il y a rien de pire que de louper une volée facile ou que de faire une double faute. Donc, c'est vrai qu'au tennis, surtout quand l'adversaire en face est un pote, c'est un peu compliqué. Mais je ne suis pas mauvais joueur. Je suis mauvais joueur contre moi. Je peux m'insulter moi-même, mais je ne suis pas mauvais joueur avec l'adversaire.
On verra ça quand je vous prendrai au ping-pong l'été prochain à Ranatuel. Denis, quand vous n'êtes pas dans la télé, est-ce que vous regardez la télé? Addiction aux séries, plateforme VOD, non ?
Non, j'ai assez peu de temps. On parlait du sport, ça me prend beaucoup de temps. J'ai une famille nombreuse, donc je regarde assez peu la télévision.
Eva Rock est pour sa part victime d'une sévère addiction.
Oui, il y a de la drogue par terre.
Non, je parlais de votre addiction aux séries, hein, c'est votre métier. Elle sniffe du trailer, se pique au streaming, elle rêve en version originale sous-titrée et demande à ses partenaires sexuels de l'appeler Daenerys Bref, elle nous guide dans cette jungle que sont devenus les programmes télé. Pensez donc, Denis, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd chaque soir 17 minutes à hésiter devant la page d'accueil de Netflix ou de la plateforme BOD à laquelle on est abonné. Heureusement, pour faire notre choix, il y a Eva Rock.
Bah oui, connaissant votre goût pour le sport et la compétition, Denis Brunier, j'ai sélectionné pour vous un documentaire remarquable en 6 épisodes à voir sur Netflix qui s'appelle Basketball or Nothing. Alors, départ pour l'Arizona, à Chinle, exactement, en plein cœur d'une réserve indienne, c'est le territoire des Navajos. Alors, il faut imaginer, c'est un paysage de roches rouges, il y a les plaines qui sont balayées par le vent, il y a quelques villages parsemés ici et là. Quel rapport avec le basket ? Eh bien, réponse dès les premières secondes du documentaire avec un des habitants.
Chinle, c'est un endroit où il ne se passe jamais rien. Il n'y a pas de club, pas d'endroit où danser, pas de salle de cinéma. Les jeunes n'ont rien à faire pour s'occuper. Les adultes non plus, d'ailleurs. On est dans la réserve. L'alcool fait des ravages ici. La vie dans la réserve n'est pas rose. On y rencontre beaucoup de situations familiales difficiles. Il y a de la violence, des parents alcooliques et ainsi de suite. C'est pour ça que le basket, c'est un peu comme une drogue pour une partie des habitants. Le basket est là pour leur donner un peu de baume au cœur.
Et oui, Basketball or Nothing, c'est l'histoire de cette équipe qui est composée de lycéens qui rêvent basket, qui vivent basket. Le basket devient en fait le seul moyen de s'en sortir, de pouvoir aller à l'université, notamment de gagner un peu d'argent et notamment subvenir aux besoins de leur famille. C'est vraiment le sport comme valeur sociale qui est au cœur de ce documentaire, mais pas seulement, parce qu'il y a un vrai suspense en fait à suivre les différents matchs du championnat. Les rencontres se soldent souvent par une victoire avec un point d'écart, que ce soit victoire ou échec d'ailleurs. On s'attache aux joueurs, au club, à l'entraîneur qui fait office d'éducateur. C'est un documentaire parfois très émouvant, au cours duquel vous allez découvrir ce que c'est que le Rezball. Rezball. R-E-Z-B-A-2-Z, qui est pratiqué par ces jeunes gens. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non, pas du tout.
En fait, c'est un basket d'attaque. Il faut marquer le plus vite possible, parce qu'en fait, comme ils sont petits de taille et qu'ils sont souvent face à des adversaires qui sont trop grands, ils ont trouvé cette tactique-là. On prend le ballon, on shoot, mais on ne fait pas d'effort en défense. Et cet entraîneur va leur apprendre à l'importance de la défense pour gagner un championnat. C'est à découvrir sur Netflix, ça s'appelle Basketball or Nothing, c'est en 6 épisodes, c'est absolument génial.
17 minutes de gagner, merci Eva Rock, c'était comme toujours très instructif.
C'était génial.
Enfin, c'est toujours mieux dans la bouche des autres, mais pourquoi pas, oui. L'équipe est sauvage, l'émission qui fait baisser la productivité des Français qui l'écoutent au travail de 30% continue. Et c'est bien normal, comment vous concentrer sur votre travail alors qu'une seule question vous obsède? Qui sera élu chroniqueur du jour? Si je vous dis, mon cher Denis Brognard, qu'Anne Le Gall va défendre ses chances avec un sujet sur un chien collégien.
Ah,
c'est le mot, à tout de suite évidemment.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage sur Europe 1, 2 heures d'une lutte sans merci entre les meilleurs journalistes de la rédaction, prêts à toutes les bassesses pour décrocher le titre si envié de chroniqueur du jour. Sous la férule de notre invité arbitre, l'incorruptible Denis Brognard, qui se prépare à couvrir la Coupe du Monde de rugby dans une semaine pour TF1. Denis, pour l'instant, comment vous trouvez l'émission?
C'est une magie qui opère, ouais. Avec du voyage, avec de la compétition, ouais. Avec du dépassement de soi, avec de l'aventure. Et j'espère que ça durera encore longtemps.
C'est vrai, bon, là vous parlez de Koh-Lanta.
Qu'est-ce
mais...
que je parle bien.
Mais vous pensez la même chose de notre émission ou pas?
Mais plus encore.
Plus encore. Merci quand même, Denis. Et justement, la compétition entre dans sa dernière ligne droite, puisqu'à l'heure est venue d'entendre Anne Le Gall, notre spécialiste environnement et initiative positive. Anne, qui n'a que des amis dans la rédaction, faut dire qu'elle est hyper sympa et que ses enquêtes lui permettent souvent de donner des super conseils à ses collègues de bureau.
En leur donnant par exemple des graines de lin, oui. Eh bien, elle dégazait moins.
Oui, mais ne révélez pas tout, Ève Roger nous écoute peut-être.
Oh non, c'est moche.
Aujourd'hui, Anne, vous avez choisi de nous parler d'un chien qui fait sa rentrée dans un collège de Normandie.
Voilà, je vais vous faire voyager, Denis. Je vous emmène dans l'Orne. Je vous emmène à Argentan.
Mais vous me faites rêver.
Mais oui, c'est la Normandie.
Je vous en prie, Denis. Attention, et c'est très beau, Argentan.
Je vais vous parler de Pollen. Pollen est une jeune chienne dalmatienne de 5 mois. Elle a effectivement fait sa rentrée scolaire au collège François Truffaut d'Argentan. Cette chienne, en fait, vient rassurer, déstresser, dénouer les conflits au sein des groupes d'élèves. Il s'agit, en fait, du premier chien pédagogique de France.
Ah, mais je suis fasciné par cette initiative. Elle a un emploi du temps, cette chienne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la journée?
Alors, elle a un emploi du temps parce que tout ceci se fait en accord avec l'éducation nationale. Donc, il y a un vrai protocole. Donc, pas question de laisser Pollen batifoler dans la cour comme ça. Donc, Pollen a un planning. J'ai appelé la principale, Madame Renard, ce matin.
Madame Renard
m'a confirmé. Pollen a un emploi du temps. Elle passe la plupart de son temps à l'infirmerie.
Anne, je vous l'ai dit pour vos sujets, pour vos infos. La source, c'est important. Le Gorafi, par exemple, c'était pas une source fiable en fait pour faire une chronique journalistique.
Non, mais j'ai vérifié, j'ai appelé le rectorat, j'ai appelé quand même la principale. Et effectivement, Pollen a un emploi du temps. Son travail, en fait, consiste essentiellement à faire de la médiation sociale en infirmerie. Donc, elle accompagne l'infirmier qui est le maître officiel du chien. Et pendant les entretiens médicaux avec les élèves, sa présence permet de déstresser les enfants. C'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves depuis la rentrée, donc depuis 10 jours. Et c'est d'ailleurs avec l'infirmier et le médecin scolaire que ce chien a fait son entrée dans l'établissement. Et les élèves, donc, quand ils viennent à l'infirmerie, sont rassurés. Par ailleurs, Pollen suit des cours de dressage et elle interviendra aussi dans les classes pour intervenir auprès des élèves et responsabiliser les enfants face à un animal, leur apprendre le respect, par exemple.
Mais est-ce qu'on est sûr que la présence de chien a un impact réel sur les élèves?
Alors, dans l'éducation nationale, c'est une première. L'expérience va durer 1 an, mais ça fait quand même plus de 60 ans qu'on utilise la médiation animale pour dénouer les conflits, pour déstresser. Les premières expériences ont été menées dans les années 50 par un psychiatre américain qui a travaillé avec un enfant autiste. Et donc, il a constaté effectivement que la présence d'un animal pouvait renforcer la confiance en soi. Pourquoi ? Parce que en fait, l'animal ne nourrit pas d'attente idéalisée par rapport à l'humain. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et c'est beaucoup plus simple. Il y a une communication non-verbale qui se fait très simplement. D'où la présence effectivement de plus en plus fréquente de chiens, de lapins, de cochons d'Inde dans les hôpitaux, les maisons de retraite, même en prison. Donc, dans l'éducation nationale, c'est une première. Et la principale adjointe signale que d'autres établissements se sont déjà montrés intéressés par cette expérience à Argentan, dans l'Orne.
Le chien, plus que jamais, Pollen. Meilleur ami de l'homme.
Oui,
merci, Anne Le Gall, pour cet éclairage différent, intéressant. Les amis,
je mise sur l'originalité.
Oui, mais vous misez toujours, sur la singularité. Les amis, tout le monde a sa coquille. Denis Brognard prend part à notre mêlée quelque peu bordélique jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes à J-8 de la Coupe du Monde de rugby. Comme disait Walter Spanghero avant France-Angleterre.
Tel l'aveugle dans une orgie, j'allais devoir me servir de mes mains.
C'était ça le rugby qu'on aimait. À tout de suite.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue 2 heures d'une furieuse compétition qui en rappelle une autre. Les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour.
Ils ont toutes leurs chances, mais attention,
Les défis sont de taille.
C'est vraiment comme Koh-Lanta, sauf qu'il n'y a pas 100 000 euros à gagner et que nous, on ne bouffe pas du riz aux algues.
Il y a des roulades chez vous.
Et surtout, nous, on fait des roulades. Chaque soir à table, vous n'en pouvez plus d'entendre votre compagne dire la bouche pleine.
Elles ne sont pas dégueulasses, ces coquillettes.
Surprenez-la avec des recettes innovantes et pas chères grâce à Delice in Extremis, notre recette dernière minute à moins de 10 euros. C'est possible et c'est dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 et on approche de la fin du temps réglementaire dans l'équipe est sauvage. Les premières crampes apparaissent chez nos journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Les coups bas se multiplient. Il faudra analyser la vidéo de surveillance, mais durant la pub, Mathieu Charrier aurait tenté d'uriner sur les fiches d'Anne Le Gall en criant
« C'est de la merde, c'est du caca !»
Et tandis qu'Anne, en larmes, tentait d'éventer ses feuilles, le grossier personnage lui aurait marmonné à l'oreille, toujours provocateur.
Oh, ça devait être un enfer à nettoyer ça.
Vous êtes un monstre, Mathieu. Cette compétition est en train de vous monter à la tête. Heureusement, voilà un gentleman qui arrive. Olivier Pouls est ce secouriste du quotidien qui, chaque jour, vers 6h moins le quart, vous aide à concocter un petit plat bluffant avec moins de 10 euros. Delice in Extremis arrive juste après Jimmy, Cat Centuries et Calogero sur Europe 1. Jimmy, c'était Cat Centuries et Calogero sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Le dénouement, les amis, est proche. Sous l'œil d'un invité habitué à départager des compétiteurs exténués, Denis Brognard, les quatre journalistes d'Europe 1 en lice aujourd'hui pour le titre de chroniqueur du jour vont bientôt entendre le verdict des auditeurs. Mais d'abord, mon cher Denis, je vous présente un homme qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle épreuve dans Koh-Lanta. Plus cruel encore que l'épreuve des poteaux et de la roulade dont on parlait tout à l'heure. Vers le 30e jour, vous voyez, quand les gars ne mouffent plus que du manioc et ont commencé à s'auto-digérer, vous faites venir Olivier Pouls sur le campement avec un réchaud à gaz, quelques victuailles de sa Bourgogne chérie. Vous le laissez cuire doucement l'agneau de lait qu'il arrosera certainement de meursault. Vous réunissez les naufragés et là, celui qui réussit à ne pas sauter sur la bouffe gagne. Voici Delice in Extremis. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, bah, je suis tout à fait prêt.
S'il fait ça, c'est moi qui mange. S'il fait ça. Vive la Bourgogne libre.
Hein. Absolument.
La Bourgogne du même
fier
côté.
Fier d'être bourguignon.
Voilà, fier d'être bourguignon. On se fait un petit banc bourguignon,
ah, on pourrait dire, allez, là,
là, là, là, là, là, là, là, là, là. Bon, on arrête parce que...
Chers auditeurs, je vous raconte ce qui s'est passé pendant la pub. On accueillait Olivier Pouls et je demande à Denis Brognard si par hasard il connaît Olivier Pouls. Et là, il commence à faire un siphon fonfon à la bourguignonne. Là, j'ai tout de suite compris qu'effectivement, ils avaient déjà bu quelques godets ensemble. Olivier, vous êtes vous aussi un homme de défi. Vous nous proposez chaque jour une recette de dernière minute qui déchire et pour moins de 10 euros pour deux.
Oui, et en plus, j'ai décidé de vous faire plaisir parce que je me rappelle de cette célèbre phrase que vous aviez prononcée. Vous m'aviez dit, la figue, ça m'excite. Ça, j'avais retenu. Ça.
Je vous le redis, ça m'excite.
Et donc, je me suis dit, je vais lui faire des figues. Parce que suite à ça, je vous ai quand même offert un pot de confiture de figues, rappelez-vous.
Qui m'a tenu tout un été.
Résultat, je suis toujours dans votre bande. Et j'ai du boulot.
Vous m'avez acheté avec des pots de vin.
Donc, on va encore faire des figues aujourd'hui. On va faire des figues rôties. Mmh. Version salée d'ailleurs. Alors, liste des courses très simple. Par personne, il vous faut 3 figues, donc 6 figues pour 2, évidemment.
Ah oui, Olivier, c'est aussi pour ça que je vous aime, c'est cette précision, cette rigueur arithmétique.
C'est très très précis. Il vous faut 3 tranches de jambon sec, type jambon de Bayonne, par exemple, 100 g de feta, une petite branche de thym, et il vous faut une petite cuillère de miel. Voilà, c'est tout simple, il ne faut vraiment pas grand-chose. Alors, l'idée, c'est de prendre les figues, de couper la petite queue, de faire une incision en croix sur les 2/3 supérieurs de la figue, ce qui va vous permettre de l'ouvrir.
Ah, j'ai cru que c'était pour le côté chrétien de la recette.
Non, pas du tout. D'accord. C'est juste pour pouvoir y glisser un petit morceau de feta.
Mmh,
ensuite, vous allez prendre vos tranches de jambon, les couper en deux dans le sens de la longueur et emmailloter vos figues dans ce jambon. Vous posez tout cela dans un plat gratin par exemple qui va au four. Vous arrosez une petite cuillère de miel vos figues, vous rajoutez quelques petites brindilles de thym, un petit tour de moulin à poivre et vous enfournez pendant un quart d'heure à peu près à 180 degrés. Et là, vous allez avoir le fromage qui va fondre, la figue qui va confire et le jambon qui va récupérer tous ces sucs et qui va les partager aussi et rapporter un petit peu de moelleux. Mmh. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que je reviens la semaine prochaine?
Et je pose surtout la question à notre invité Denis Brognard. Est-ce que comme moi, Denis, la figue, ça vous excite?
Ah ben bah là, ça m'excite à mort. Non mais moi ce qui m'impressionne c'est qu'il fait tout ça sans feuilles, sans rien, etc. Non, la recette,
tout dans la tête.
Tout dans la tête.
Merci beaucoup Olivier Pouls, qu'on retrouve dans la table des bons vivants chaque week-end avec Laurent Mariotte sur Europe 1 à 11h le samedi, c'est bien ça?
Absolument.
La Coupe du Monde de rugby démarre la semaine prochaine au Japon. Vous pourrez suivre tous les matchs sur les chaînes du groupe TF1 et notamment le mag de la Coupe du Monde présenté par notre invité Denis Brognard. Reste avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, la tonitruante compétition qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G touche à sa fin. Qui de Anne Le Gall, Jérôme Lacroix, Alain Incaux ou Mathieu Charrier sera élu chroniqueur du jour? La tension est grande, mais n'exagérons pas la rivalité entre ses collègues qui s'apprécient quand même, n'est-ce pas Jérôme? Ce n'est pas parce que vous disputez le titre de chroniqueur du jour que vous n'aimez plus Mathieu Charrier.
J'ai la rage au ventre, j'ai envie de hurler, d'insulter, de frapper, de buter cette personne.
Oui, alors mais j'ai peut-être ouvert une boîte de Pandore avec cette idée de compète, moi, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage se termine. Le verdict va tomber dans la grande compétition qui oppose désormais chaque après-midi les meilleurs journalistes de la station au service de votre savoir. Une fois de plus, le combat fut rude et les coups en dessous de la ceinture, nombreux.
J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur.
Qui sera élu aujourd'hui? Chroniqueur du jour, vous avez voté via Twitter et Facebook. Alors Eva, que nous disent les votes?
C'est Anne qui remporte les deux points du public avec son histoire
Anne
de
Le
chien.
Gall.
Ouais, merci,
deux
merci chers auditeurs.
Deux points pour vous, Anne Le Gall. En ce qui me concerne, aujourd'hui, je donnerai mes points, car moi aussi j'ai un cœur sous la cuirasse, à Mathieu Charrier pour sa magnifique bande dessinée. Mathieu, vous avez donc un petit point, puisque je n'ai qu'un point. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette règle-là, j'aurais pu avoir trois points. Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui fait souvent la différence. Denis Brognard, votre vote compte triple, éliminer des gens. Vous adorez ça, c'est votre métier depuis 20 ans. Alors je vous propose d'ouvrir le conseil. Vous avez devant vous quatre torches, à défaut d'être des lumières. Quatre journalistes qui se sont su passer pour vous offrir la chronique la plus intéressante.
Vous pourriez pas... Hey, comme quoi, c'est un métier, hein, faire Koh-Lantin. C'est un métier.
Fait,
parce que si j'arrive comme ça au conseil, il se marre et c'est terminé. Alors qu'au conseil, on rit pas. Il y en a un qui va partir.
Quatre journalistes qui se sont surpassés pour vous offrir la chronique la plus intéressante. Lequel sera sacré champion aujourd'hui? Mathieu Charrier, Anne Le Gall, Jérôme Lacroix ou votre pote Alain Incaux qui vous faisait des gros clins d'œil durant la coupure pub? Denis Brognard, c'est à vous.
Incaux, c'est mon pote, je ne veux pas faire de favoritisme. Jérôme, c'est du sport, c'est mon domaine de prédilection. J'aime bien les chiens, mais néanmoins, je ne veux pas quand même mettre trop d'avance sur une histoire de chien. Et je suis... voilà, j'ai été touché par cette BD et par l'histoire racontée par Mathieu Charrier. Et j'en profite d'ailleurs pour dire... et de prendre mon bâton de pèlerin d'ambassadeur et de parrain de la fondation ARC pour la recherche contre le cancer. Et à ce titre-là, eh bien, je voudrais donner mes trois points.
Merci
à Mathieu
Denis.
Charrier pour cette belle histoire mêlant le surf et cette jeune femme qui combat un cancer. Et juste vous dire qu'aujourd'hui, on soigne un cancer sur deux et que l'objectif en 2025, c'est-à-dire demain, si on est capable de mettre encore plus d'argent dans la recherche, et la recherche en France est l'une des plus en pointe, eh bien, on pourra soigner deux cancers sur trois. Donc à travers juste ce petit message, je voulais donner mes points à Mathieu Charrier.
Mathieu Charrier est un homme heureux. Il remporte cette 15e édition de l'équipe sauvage. Vous venez vous coiffer de cette couronne qui vous va tellement bien. C'était donc le 15e numéro de l'équipe sauvage sous le haut patronage d'un arbitre de choix, Denis Brognard, que vous retrouvez la semaine prochaine dans le MAC de la Coupe du Monde de rugby sur TF1, évidemment. Merci Denis d'avoir joué le jeu pendant ces deux heures.
Et puis j'en profite pour faire mon autre promo.
Mais
Automoto.
Automoto, mais bien
dimanche
sûr.
Matin, spécial salon de Francfort, j'en rentre avec plein de nouveautés. 10h10 sur TF1.
Merci également à la Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Anne Le Gall, Mathieu Charrier, Jérôme Lacroix, Alain Incaux, ma complice, mon collier d'immunité à moi, Eva Rock. L'équipe sauvage revient demain 16h. L'info avec un grand I, c'est tout de suite sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et vivement demain. Hâte de vous retrouver avec toute votre équipe et vos invités. Bien sûr, ce sera dès 16h et en direct.